sur Europe 1. On reste ensemble, hein.
Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Plein de nouveaux rendez-vous à suivre, mais d'abord toute l'info à 7h avec les Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Deux salles, deux ambiances. À droite, Éric Zemmour sur scène à Villepinte. À gauche, Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Choc des extrêmes pour relancer deux campagnes. Nous y revenons.
Retour des jauges, fermeture des écoles ou rien de tout cela. Nous verrons les options du gouvernement pour faire face à la cinquième vague.
Une voiture électrique pour dompter la glace du trophée. Féandros, Romain Grosjean, CSS cet après-midi à Val Thorens.
Dans la prochaine demi-heure, Florence Comte, présidente du syndicat des écoles, pour parler de la crise sanitaire et des scolaires. Et puis, avec Mathieu Alterman, on verra qu'Éric Zemmour n'est pas le seul candidat à utiliser les artistes dans les clips de campagne. Rendez-vous à 7h23. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon.
Pardon, ciel parfaitement bleu depuis... Pardon, excusez-moi, le ciel qui est parfaitement bleu depuis... Non, je ne dors pas, bien sûr que non. Je regarde les cartes météo avec ces vigilances avalanches qui évoluent sur les Pyrénées et ces grosses quantités de neige qui sont attendues sur les reliefs. Le ciel qui est parfaitement bleu, je commence par les bonnes nouvelles depuis le sud de la Bretagne jusque l'estuaire de la Garonne. Les éclaircies qui gagnent les Charentes et les Pays de la Loire. Il fait beau aussi le long du pourtour méditerranéen et ailleurs le ciel qui est gris, qui est humide et qui est donc très neigeux en montagne.
Allez, on détaille tout cela dans 7 minutes. Éric Zemmour sur scène cet après-midi pour son premier meeting en tant que candidat.
Oui, il devrait y avoir du monde à Villepinte pour y assister, davantage que les 6000 personnes prévues au départ au Zénith de Paris. Le candidat réunit ses troupes derrière son nouveau slogan dévoilé hier, impossible n'est pas français. Victor Chabert, c'est le moment pour lui de se lancer vraiment.
Oui, c'est le véritable lancement de sa campagne. Éric Zemmour doit se présidentialiser, montrer qu'il est désormais aspirant à la fonction suprême et non plus un polémiste. Il a travaillé son discours lui-même, une prise de parole assez longue, une heure environ. Il lancera également son parti et présentera ses soutiens. Pour l'instant, le plus connu officialisé par le candidat est le président de VIA, Jean-Frédéric Poisson. Ce meeting d'Éric Zemmour est aussi stratégique car il tombe le lendemain de la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains et le néo-candidat a décidé d'ouvertement draguer ceux qui ont voté Éric Ciotti, qu'il estime proche de sa ligne politique. Hier, dans une lettre adressée aux militants LR et publiée sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a rappelé qu'avec le député niçois, il entretient une réelle amitié et a insisté « Je vous attends demain, bientôt ». Ce grand rassemblement sera sous haute surveillance. Plusieurs manifestations sont prévues à Paris, notamment à l'initiative de l'extrême gauche et de militants antifascistes.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1 et à l'instar d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle aussi cherche à récupérer les 31% des militants LR qui ont voté Éric Ciotti plutôt que Valérie Pécresse hier. La candidate investie, qualifiée d'ailleurs de macroniste. On verra ce qu'en pense Florence Portelli. Elle est vice-présidente de la région Île-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse et elle sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 8h02 tout à l'heure.
Exactement, nouvel horaire pour Jean-Pierre Elkabbach. Deux salles, deux ambiances. Jean-Luc Mélenchon tient aussi meeting aujourd'hui.
Oui, le candidat de la France insoumise lance son grand mouvement, l'Union populaire à la défense. Une maison commune, ça nous dit quelque chose, destinée à abriter des personnalités de gauche au-delà de sa propre famille politique.
Faut-il craindre de nouvelles restrictions sanitaires demain? Et si oui, lesquelles?
Ça, on le saura à la fin du Conseil de défense sanitaire autour de Jean Castex, qui se veut rassurant. Pas de couvre-feu, pas de confinement, mais alors quoi? Fermer les écoles comme en Belgique? Confiner les non-vaccinés comme en Allemagne? On voit ça avec Zoé Pallier.
Ni confinement, ni couvre-feu, préconise Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Mais cela n'exclut pas de nouvelles mesures moins extrêmes pour freiner le brassage des populations.
En plus de la campagne de vaccination qui doit s'accélérer, il faudrait probablement augmenter et inciter fortement le télétravail. Et donc si on dit qu'on incite au télétravail, qu'on modifie les jauges, qu'on fait un effort sur ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la bulle sanitaire, souvenez-vous, où on disait il faut éviter d'être à plus de 6 jusqu'à 10 lorsqu'on est vacciné, ça je pense que ce sont des mesures qui sont entendables, chacun peut faire un effort. Ces principes vont permettre de limiter le risque de contamination.
Pas question non plus d'imiter la Belgique et de fermer les écoles avant les vacances de Noël pour Benjamin Davido. Il vaut mieux, dit-il, prendre des mesures de plus long terme qui tiendront pendant et après les fêtes de fin d'année, au moins jusqu'au mois de mars prochain.
Les explications de Zoé Pallier pour Europe 1 et on reparle du sujet des scolaires, Thierry, avec votre invité d'ici quelques minutes, Florence Comte, porte-parole des syndicats des écoles.
En attendant, 10 000 millions de Français ont reçu leur dose de rappel de vaccin.
Oui, annonce d'Olivier Véran qui s'était fixé à cet objectif la semaine dernière. Le ministre de la Santé précise que de nouveaux rendez-vous vont continuer d'ouvrir pour que tout le monde puisse faire un rappel avant le 15 janvier prochain. Et puis, une bonne nouvelle, c'est le compteur final du Téléthon qui affiche près de 74 millions d'euros, nette hausse par rapport au total de 58 millions et quelques l'année dernière, lors de la durée du Téléthon qui était sous confinement.
Lénaïque, on a appris hier soir la disparition de Pierre Rabhi.
Oui, figure de l'agroécologie en France, cofondateur du mouvement Colibri et militant de la cause écologiste. Il était aussi l'auteur de « Vers la sobriété heureuse ». Il s'est éteint des suites d'une hémorragie cérébrale à 83 ans.
Les sports à présent, Romain Grosjean participe au trophée Andros à Val-Thorens avec un véhicule électrique.
Oui, on met du vert partout, y compris dans les sports auto. La preuve avec Romain Grosjean qui roule en Zoé électrique sur cette course sur neige.
C'est vraiment la sensation de liberté de pouvoir glisser, s'amuser, mettre les gaz à fond, patiner, faire toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire en Formule 1. Est-ce que plus de dextérité? Non, mais une dextérité différente, oui. Il y a moins de choses à gérer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les changements de vitesse, l'embrayage, les choses comme ça. En revanche, il faut être plus précis sur le placement de la voiture, puisque n'ayant plus l'embrayage et les changements de rapport, on est limité sur ce qu'on peut faire.
Romain Grosjean au micro, Europe 1 d'Axel May.
Et puis le foot, l'affiche de ce soir, c'est Bordeaux-Lyon.
Oui, les Girondins sont 18e, les Lyonnais 10e, avec deux entraîneurs étrangers de renom qui jouent très gros ce soir, Jean-François Pérez.
Oui, ils sont arrivés en France auréolés d'une carrière prestigieuse. Le Bordelais Vladimir Petkovic, qui avait éliminé la France de l'Euro cet été avec la Suisse, et le Lyonnais Peter Bosz, architecte du renouveau de l'Ajax d'Amsterdam. Six mois après, leur trône vacille. À la tête du deuxième budget de Ligue 1, le Néerlandais est le plus exposé, mais l'entraîneur de l'OL n'a pas dit son dernier mot.
Ce matin, j'ai parlé avec les joueurs. Je dis mon vérité. Je pense que ça c'était clair. Dans cette saison, il y a des moments difficiles pour toutes les équipes. Comme coach, je suis là pour aider l'équipe.
Pour l'instant, Bosz est soutenu par ses dirigeants. C'est moins évident pour Petkovic. Le Suisse est plombé par sa défense. 37 buts encaissés, la pire de Ligue 1. On pourrait dire que l'effectif cosmopolite, avec 12 nationalités, n'aide pas à la cohésion. Mais le milieu de terrain Yacine Adli balaye l'argument.
Il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. La langue du football, elle est très facile. Hein. Right, left, droite, gauche, izquierda, derecha, tout le monde comprend ça. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit plus en accord entre nous aussi.
Plus facile à dire qu'à faire. À Bordeaux, ils sont de plus en plus nombreux à craindre la relégation en Ligue 2.
Et Bordeaux-Lyon, c'est le match à suivre ce soir sur Europe 1 à 20h45. Hier, Paris a concédé le nul à Lens 1 partout et son dauphin marseillais a perdu au Vélodrome face à Brest 2-1.
Et le match sera à suivre bien sûr sur Europe 1 avec Lionel Rosso. Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La météo. Valérie Darmondie. Donc on va saluer Fabrice. Fabrice qui nous envoie une photo sur Twitter de Montmartre à l'instant, illuminé, mais vide, complètement vide. Il fait très froid, visiblement, il vient de faire son footing. Voilà, bon courage à lui. Valérie, on va dire qu'aujourd'hui c'est un temps maussade, sauf entre Caen et Bordeaux. On regarde peut-être la semaine ?
Avec plaisir. Alors on commence évidemment par ce lundi, hein, c'est logique, avec un temps assez calme mais gris, sans doute la journée la plus agréable de la semaine. Hein, tout de même, notez-le sur vos tablettes.
Ouais.
C'est donc ce lundi
sortir,
avec...
C'est mardi,
voilà. Non, c'est demain qu'on sort, puisque c'est la journée la plus agréable.
Ah,
j'ai pas dit la plus
noté,
désagréable.
Pardonnez-moi, j'ai noté lundi, voilà. D'accord. Lundi, je sors. Mardi, ensuite.
Ensuite, on écoute Europe 1 en restant à la maison. Avec donc demain, quand même, quelques averses de neige, toujours dans l'Est. L'arrivée d'une perturbation pluvieuse par l'Ouest et partout ailleurs, le temps qui s'annonce nuageux et plutôt sec.
Ouais.
La suite de la semaine,
donc,
vous voulez?
Oui,
voilà.
Exactement. Dites-moi, allez-y.
Alors, on a une dépression qui traverse la France de nouveau. Le risque de vent violent qui est élevé dans l'ouest avec des rafales tempétueuses en bord de mer, mais à surveiller aussi de manière plus ponctuelle dans les terres. Vendredi, la situation qui restera très agitée côté ciel sans vent, mais avec beaucoup de pluie pour cette semaine. Des cumuls de pluie moyens qui seront généralement compris entre 20 et 50 mm sur le pays. Et j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, il y aura aussi de très grosses rafales de vent entre 110 et 120 sur les côtes landaises.
Valérie, la neige, elle va continuer de tomber?
Alors là, très très bonne nouvelle pour les stations qui ouvrent ce week-end. Elle continue de tomber abondamment en montagne à partir de 700 à 1200 mètres selon les massifs. De lundi à vendredi prochain, les hauteurs de neige fraîche qui atteindront 50 cm à 1 mètre vers 1300 mètres. Dans les Pyrénées, des hauteurs de 2 mètres qui sont attendues au-dessus de 1800 mètres et le risque d'avalanche, bien sûr, qui sera maintenu.
Alors, on regarde les maximales maintenant.
Alors, elle se situe, comme ce week-end, pour cette semaine, 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison, avec 7 à 10 degrés du nord au sud et des pointes vers 12-13 près de la Méditerranée. Ressenti encore plus froid, par contre, à cause du vent et des pluies. Ça veut dire que vous retranchez à peu près 5 degrés supplémentaires en dessous des valeurs normales de saison. Hein. Okay. C'est pour vous dire comment il va faire froid. Aujourd'hui, entre 4 à Gap et 17 à Nice.
Merci beaucoup Valérie, on se donne rendez-vous bien sûr à 7h30.